Pas de trou d'indigestion théologique pour ceux qui ont fait les deux semaines. Bien, et nous allons prier. Seigneur, nous ne savons pas par où commencer en te remerciant pour tes bienfaits. Et Seigneur, nous voulons te louer particulièrement aujourd'hui pour cette parole infiniment riche que tu nous as donnée. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour l'occasion que nous avons de nous pencher sur cette parole ensemble et de savoir que ton esprit nous dirigera dans la mesure où nous sommes disponibles pour l'écouter, pour nous laisser guider. Et Seigneur, nous voulons nous confier en toi pour cette dernière étude comme pour tous les cours de cette journée, afin, Seigneur, que ce soit, Seigneur, quelque chose de profitable, d'enrichissant, et que nous soyons encouragés pour aller de l'avant dans ton service. Amen. Bien, alors nous allons essayer de terminer rapidement l'étude 4 avant de passer à l'étude 5. Mais j'espère que tout le monde est là parce que une remarque importante pour ceux qui ont exprimé le désir de valider un certain nombre de cours, peut-être ce cours-ci, est-ce le cas? Est-ce que quelqu'un souhaite valider ce cours d'Ancien Testament? Est-ce que... Oui, alors je vois combien de... Un, deux, trois... Si vous levez bien haut la main pour que je vois clairement. Trois, quatre. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez venir me voir immédiatement à la fin du cours et je vous donnerai le travail à faire? Bien. Ça va? Alors, nous allons régler les choses entre nous de cette manière-là. Bien. Alors, il nous restait comme point numéro 3 de cette quatrième étude, la vision politique du prophète. Alors, je vais me contenter de quelques observations ici, je n'entrerai plus dans les détails. Nous aurions pu nous y attarder et approfondir la question, mais le temps ne le permet guère. Et nous avons déjà vu la perception qu'avait Jérémie du rôle joué par Nebuchadnezzar comme instrument de Dieu. Donc, je ne vais pas reprendre ce thème-là. Et nous avons également vu hier que dans les oracles dirigés contre Babylone, au chapitre 50 et 51, ces oracles qui devaient être jetés dans l'Euphrate, que Dieu annonce qu'il va juger l'instrument de sa colère, mais des Babyloniens pleinement responsables de leurs méfaits, même s'ils étaient inconsciemment au service de Dieu. Je voudrais peut-être dire quelques mots sur un texte que nous n'aborderons guère en dehors de ce thème-là. Ce sont les oracles contre les nations sur lesquels je voudrais dire quelques mots. Donc les oracles des chapitres 46 à 49 inclus. Alors deux directions ici. D'abord le moment de ces oracles. Sauf pour l'oracle concernant Élam. Alors, vous savez où se trouvait Élam? Probablement pas. Mais vous... Comment? C'est une partie de la Perse, oui. Je crois que ça doit faire partie de l'État d'Iran aujourd'hui. Mais vous avez très probablement une ou plusieurs cartes du Proche-Orient dans votre Bible. Vous trouverez Élam... Alors, tout à fait à l'est de la carte, puisque la carte du Proche-Orient que vous avez dans la Bible couvre en gros la région qu'on appelle le croissant fertile, qui va de l'Égypte jusqu'à Sumer. Et ça, c'est le monde de l'Ancien Testament. Et intéressant, j'ai relevé ben, la chose en étudiant Abraham, en faisant cours sur Abraham. Abraham a couvert toute cette région-là. Il est parti d'Ur, sa ville natale, et il a poussé jusqu'en Égypte. Donc, il a vu toutes les régions concernées par l'œuvre de Dieu sous, avant la Nouvelle Alliance. Et Élam se trouve légèrement en dehors de ce théâtre-là. Donc, Élam fait exception à cette règle du monde de l'Ancien Testament, où Canaan se trouvait en quelque sorte plus ou moins au centre, en tout cas un passage obligé entre ces pôles, différents pôles du croissant fertile. Donc, tous les oracles, sauf l'oracle concernant Élam, peut-être pour la raison que je viens de vous proposer, tous les oracles sont datés de la quatrième année de Joachim. Et je ne sais pas si vous avez encore à l'esprit ce que j'ai dit lundi. Dès que la quatrième année de Joachim, c'était quelle année pour vous? La quatrième année de Joachim. Voilà, merci beaucoup. Ça me rassure. Donc, 605, nous avons vu que c'était une date clé dans le ministère de Jérémie, puisque le prophète comprend que c'est l'année où Dieu met en route un mécanisme qui débouchera directement sur la destruction de Jérusalem et la disparition des institutions théocratiques liées à l'alliance faite au Sinaï. Donc, Élam se situe, les oracles sont tous de cette année 605, sauf pour Élam qui ne porte pas de date. Il se pourrait que ce soit sans conséquence, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons le monde donc d'Israël, du temps de l'Alliance du Sinaï, mais avec une préfiguration de ce qui viendra après, en dehors de ces dates, avec Élam, qui est représenté le jour de la Pentecôte parmi les Juifs et les prosélytes qui s'étaient rendus à Jérusalem pour fêter la Pentecôte et qui allaient constituer les premiers convertis après la descente de l'Esprit. Donc, Actes chapitre 2, verset 9. Alors, qu'est-ce que je conclus de ces observations? Dieu, en 605, met en branle le châtiment de son peuple, et cet acte, réalisé par le Dieu universel, aura des conséquences profondes pour tout le monde. Ce que Dieu fait pour ou contre Israël va rejaillir sur ses voisins. Et le phénomène sera amplifié davantage encore sous la Nouvelle Alliance pour ce qui concerne l'Église. Donc voilà pour le moment de ces oracles. Pour ce qui concerne leur contenu, je vois en lisant ces oracles les mêmes principes que ceux que Dieu applique dans le cas d'Israël. Alors, il y a deux thèmes forts, jugement et rétablissement. Il est intéressant de relever que les termes, les réactions suscité par la destruction de Jérusalem, cette réaction va se retrouver pour la destruction des autres nations. Nous lisons au chapitre 19, verset 8, pour Jérusalem, « Tous ceux qui passeront près d'elle seront stupéfaits et la railleront. » Donc, et nous retrouvons pratiquement des termes identiques pour la destruction d'Édom au chapitre 49, verset 17, et même pour Babylone au chapitre 50, verset 13. Donc, Dieu juge Israël, mais il juge les autres nations aussi. Mais le même principe est valable pour le rétablissement. Dieu promet de ramener les captifs d'Israël dès avant le bannissement, dès avant cet exil involontaire. Mais la même chose est dite pour l'Égypte, chapitre 46, verset 26. Pour Moab, chapitre 48, verset 47. Pour les Ammonites, chapitre 49, verset 6. Et même pour Élam, chapitre 49, verset 39. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ce constat, à votre avis? Comment? Oui, tout à fait. C'est un Dieu qui n'a pas de considération. On pourrait dire qu'il n'y a pas de considération de peuple, comme sous la Nouvelle Alliance, il n'y aura pas de considération de personne. Donc ici, Dieu agit au niveau national. Sous la Nouvelle Alliance, il va agir au niveau individuel, personnel. Alors, je peux enchaîner immédiatement avec la dernière étude ou est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui. Pourquoi est-ce que Ninive a été Oui, est-ce que Jérémie parle de Ninive? Et pourquoi pas? Voilà, exactement, c'est ça. C'est que l'Empire assyrien a été détruit entre 612 et 608. Et c'est là, c'est ça qui a permis l'essor de Babylone et des Médo-Perses. Donc vous voyez, c'est l'intérêt de connaître quelques dates. On dit souvent, apprendre un tas de dates par cœur, à quoi ça sert? Mais je vous assure que c'est fort utile. Hein? Donc nous sommes en 605 et Ninive n'est plus. Hein? Il n'y a pas d'autres questions. Alors, l'étude numéro 5, que j'intitule « Jérémie théologien ». Bien sûr, tout est théorème quand Jérémie parle de l'histoire, c'est toujours de la théologie. Je vous ai suggéré au départ que les deux sont inséparables. Mais nous allons quand même examiner de plus près la pensée du prophète. Et surtout, un aspect de sa pensée, les prédictions qu'il est amené à faire concernant l'évolution future de l'œuvre de Dieu. Alors, il y a un certain nombre de points qu'il faut faire logiquement dans cet ordre-là. Premièrement, que Jérémie se refuse à toute spéculation personnelle ou démagogique. Je vais invoquer là surtout les chapitres 1 et 28. Ah, les spéculations, c'est un danger qui nous guette à tout moment. Je me rappelle toujours, tout jeune chrétien, et vous savez que quand on est jeune chrétien, on est très attentif à tout ce qui est dit et on accepte pratiquement tout sans esprit critique, n'est-ce pas? Alors quand ça vient de la chair ou d'une autorité, forcément c'est parole de Dieu. Et moi j'ai été frappé par un frère que j'apprécie à ce moment-là, que j'apprécie toujours aujourd'hui, qui a dit en 1960, « Ah, vous savez, mes chers frères, au rythme où on voit les choses, vous savez, le retour du Seigneur ne peut pas au moins être retardé même longtemps. D'ici 5 ans au plus tard, il sera là. » Vous avez probablement entendu des choses pareilles. Oui ? Oui, bon. Le problème, c'est que c'est pas parce que ces prophéties sont déjouées régulièrement que ça empêche d'autres d'en formuler. Alors, Jérémie devait être conscient de ce problème de fixer des dates pour des événements, même s'il était dirigé par l'Esprit. Je pourrais dire d'autant plus qu'il était dirigé par l'Esprit. Mais il était très sensible à la question. Nous avons vu qu'il a avancé un chiffre précis, n'est-ce pas? C'est-à-dire 70. Bien. Vous remarquez, 70, ce n'était pas terriblement dangereux, parce que parmi les auditeurs de Jérémie, combien allaient vivre encore 70 ans pour voir si le prophète avait raison ou non? Vous voyez que c'est facile de dire... Oh, comme j'ai lu encore dernièrement de la part d'un théologien connu, nous entrons dans le troisième millénaire et je suis convaincu que ça doit forcément être le dernier. Alors, qui est-ce qui va le contredire si jamais ce n'est pas le cas? Ce n'est pas moi, hein? Donc, et s'il parle de 70 ans, ce n'était guère vérifiable. Mais, par contre, il refuse catégoriquement l'échéance d'une captivité ne durant que 2 ans. Et ça, ses auditeurs allaient s'en souvenir. Et puis, qu'est-ce qui serait arrivé à Jérémie si tous les exilés avaient été de retour dans ces 2 années prédites? Ah oui, il aurait perdu la face. Bon. Donc, il se mouille quand même. Mais, et encore, il était conscient d'un autre problème, c'est que le prophète peut annoncer des événements précis, tout en sachant que ces événements, même s'il est véritablement prophète envoyé par Dieu, que ces événements peuvent ne pas avoir lieu. Comment? Exactement, oui, j'allais citer cet exemple-là, vous avez parfaitement raison. Oui. Ça fait partie du problème de Jonas, qui va plus loin que ça, mais c'est un élément. Donc, il ne faut pas oublier. Et où est-ce que Jérémie traite cette question-là? Parce que là, nous avons un passage qui est plus direct sur cette question-là qu'aucun autre passage des Écritures. Non? Au chapitre 18, quand il dit que voilà, le prophète annoncera un jugement sur un peuple, mais si ce peuple se repent, le jugement n'aura pas lieu, ou sera repoussé à plus tard. Donc chapitre 18, versets 5 à 10. Et comme on vient de le dire, ça fait partie du problème de Jonas. Est-ce que Jonas était un vrai prophète ou non ? Hein ? Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire un petit prophète ? Qui mesure moins de 1m70 ? Oui. Vous savez pourquoi les 12 petits prophètes sont regroupés ensemble? Oui, mais parce que si on ajoutait ces 12 livres, ça correspondait exactement à ce qu'on pouvait mettre sur un rouleau de format standardisé. Vous n'avez jamais remarqué que les évangiles de Matthieu, de Luc et de Jean sont à peu près de même longueur. Et il est fort probable que l'évangéliste a calculé pour remplir tout un rouleau. Et puis un rouleau, ça coûtait cher. Donc il ne fallait pas laisser trop de vide. Et vous avez vu des photocopies de ces manuscrits avec il n'y a pas d'espace entre les mots. Pas d'espace entre les phrases. Tout suit. Comme ça, il fallait pas perdre au moins un millimètre carré, si j'ose dire. Donc, pour Jérémie, la prédiction est un acte solennel. Et quand il se livre, moment à ses prédictions les plus importantes, au chapitre 30 à 33, il préfère mettre ses oracles par écrit plutôt que d'en faire des prédications. Et d'ailleurs, vous aurez constaté peut-être la même chose chez Isaïe. Les grandes prédictions d'Isaïe concernant les événements futurs ont dû être rédigées, ont dû voir le jour directement sous forme écrite avant de passer par le stade oral. Donc, c'est un acte solennel, mais qui est toujours vu en rapport avec sa vocation. C'est comme ça qu'il évite les spéculations personnelles. Si vous prenez le chapitre 31, verset 28, et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, faire périr, mettre à mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Vous avez reconnu tout de suite des paroles importantes liées à la vocation de Jérémie, chapitre 1, verset 10, et ainsi de suite. Donc on pourrait examiner ces oracles pour voir dans quelle mesure il découle très directement de sa vocation personnelle. Donc Jérémie reste tributaire de ce que Dieu lui a révélé directement, au lieu de faire valoir sa qualité de prophète pour se livrer à des spéculations. Et vous savez pourquoi on continue à spéculer aujourd'hui, malgré les échecs retentissants du passé? C'est parce que ça impressionne les autres. Ça impressionne les autres et ça vous donne un prestige provisoire énorme. Un tel devient un gourou. Jérémie s'est refusé à ça. Et quand il a fait donc ses grandes prédictions en dehors des 70 ans, il a confié ça à l'écriture directement au lieu de mettre ça sur la place publique. Donc, premier point, le refus de spéculation personnelle. Deuxième point, Jérémie, comme théologien, se fonde sur la révélation passée. La révélation de Dieu est contenue. Dieu révèle, lève un coin de voile après l'autre. Donc nous allons vers une révélation toujours plus complète. Et vous savez ce qui m'a frappé un jour, quand j'avais cette idée en tête, mais la révélation continue de Dieu, c'est que nous devons chaque nouvelle étape de la révélation à quoi ? Au péché de l'homme. C'est chaque fois quand l'homme tombe, chute, n'accomplit pas la volonté de Dieu, chaque fois Dieu révèle encore une étape de plus dans son plan et quelque chose de plus merveilleux. Alors, vous voyez, Paul a assumé cette idée de sorte qu'il s'est trouvé en face de lui des chrétiens qui disaient « Péchons pour que la grâce surabonde, n'est-ce pas ?» Et puis, s'il n'y avait jamais eu de péché, qu'est-ce qu'il y a eu comme révélation ? Il y a eu l'innocence d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et on ne serait pas allé plus loin. Alors, on serait tenté de dire que le péché a produit vraiment un enrichissement de la vie humaine. Mais là, c'est un raisonnement tordu. Nous sommes bien d'accord. Je dis seulement, on pourrait tenter de penser ça, mais ce serait faux. Mais c'est seulement le signe de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas pécher pour que la grâce surabonde. Jamais abuser de la grâce de Dieu. Donc, la prise en compte de la révélation passée. Alors, deux points ici. Je crois que sur la feuille, vous avez d'abord les voisins d'Israël et puis Israël. Je commencerai dans l'ordre inverse. D'abord, pour ce qui concerne Israël, quel est ce passé que Jérémie assume ? C'est la conception de l'alliance du Sinaï, en premier lieu, résumée par le livre du Deutéronome. Ce livre de l'alliance qui constitue probablement le document retrouvé en 622 au Temple. Et il y a toutes sortes de thèses critiques qui reposent sur le fait que si vous prenez le Deutéronome, si vous prenez les livres historiques, Josué, Juges, Samuel et Roi, et puis si vous ajoutez le livre de Jérémie, et si vous les lisez attentivement, ça demande un certain temps, bien sûr. Mais, et puis malheureusement, on n'a pas tellement l'habitude de lire de longs textes comme ça. Et si on le fait, on les étudie pas de très près. Mais il y a quelque chose qui frappe quand on le fait, c'est qu'on retrouve partout les mêmes expressions. Et moi, il y a des mots et des idées qui reviennent constamment. Il y a Deutéronome, Josué, Juge, dans certaines parties de juges, Samuel dans une certaine mesure, surtout les livres des rois, et puis Jérémie. Donc, dans des dictionnaires bibliques et autres là, vous fourniront des exemples ces tournures de ces idées qu'on retrouve constamment, de garder ses préceptes, etc., etc. Et ça a engendré un certain nombre de thèses chez les théologiens libéraux qui voient que ces textes auraient vu le jour à peu près en même temps. Je ne suis nullement convaincu pour ma part. Je pense qu'il y a une autre explication, c'est que Jérémie s'est nourri de ces textes du passé de son peuple. Jérémie connaissait peut-être le Deutéronome par cœur. Vous connaissez des livres bibliques par cœur? Oh, c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Mais, et vous savez pourquoi on ne connaît pas les textes par cœur? Bon, parce qu'on a toujours la Bible sous la main. Mais, à l'époque du communisme triomphant, où la Bible était interdite, les chrétiens apprenaient des textes par cœur. Mais quand il était difficile, quand on entendait parler à l'époque d'une Bible peut-être pour une centaine de chrétiens, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se partageaient les pages. Et qu'est-ce qu'on faisait? Chacun avait droit à quelques pages qu'il s'empressait d'apprendre par cœur. Et puis on refilait ça à quelqu'un, on faisait des échanges. Comment? Oui, oui, mais c'est encore plus sûr d'apprendre par cœur, et ça ne laisse pas de traces écrites, ça ne trahit personne, n'est-ce pas? Bien. Mais nous sommes gâtés, n'est-ce pas? Nous avons tout, nous n'avons besoin de rien. Vous avez apprécié la citation. Donc, je pense que Jérémie était pleinement nourri donc de ces textes-là, et il a adapté son propre langage, un langage qu'on qualifie généralement de langage deutéronomiste. Donc, il est marqué jusque dans son style, il est marqué certainement dans sa pensée, quand il a discerné, c'est tout, en lisant les rois, les méfaits d'un certain nombre de rois de Juda qui ont poussé le pays vers un point de non-retour dans la désobéissance à Dieu et dans le non-respect des termes de l'Alliance. Oui.
Comment il aurait pu dire les rois alors que les rois sont-ils, n'étaient déjà pas compris au moment où Jérémie a écrit, ils sont descendus obligés par la grâce?
Mais je pense que les choses étaient déjà bien avancées à l'époque. Et puis, de toute manière, comment est-ce qu'on a écrit les livres des rois? Voilà, donc il y avait des documents écrits. Et très pour moi, ce que nous avons dans la Bible est très proche de ces documents officiels. Est-ce que Jérémie pouvait avoir accès à des documents officiels? Oui, surtout, oui, exactement, oui, avec Chafan et compagnie. Donc, il discerne, et Jérémie est tout à fait d'accord avec Deux Rois 21, 10 à 15, qui décrète qu'à partir du règne de Manassé, que l'exil babylonien est devenu inévitable. Donc, pour un peuple qui a dépassé la mesure dans la voie de l'infidélité vis-à-vis de son suzerain. Vous trouvez donc exactement la même idée en Jérémie 15, verset 4. Donc c'est à cause du péché de Manassé que le peuple d'Israël va perdre le pays donné par Dieu. Et pour ce qui concerne les malédictions dans le livre de Jérémie, ou chapitre 11, verset 3 par exemple, vous avez un fidèle reflet de la longue liste de malédictions de Deutéronome 28, versets 15 à 68. Or, si vous avez ces textes-là dans votre lecture quotidienne, c'est terrible. C'est presque aussi ingrat que les 9 premiers chapitres de 1 Chronique, n'est-ce pas? Et vous connaissez ces 9 chapitres-là? Oui? Voilà, exactement, oui. Bien. Donc, voilà pour Israël la prise en compte de ce qui avait déjà été révélé, ce qui avait déjà été décrété par Dieu. Si nous passons au cas des voisins d'Israël, Jérémie va puiser très largement dans le péché de ses prédécesseurs. Si vous voulez apprécier le chapitre 48 consacré aux Moabites, bon, il y a plusieurs manières d'apprécier ce chapitre. Je vous ai déjà proposé une approche avec les métaphores qui constitue un fil conducteur, mais il y a une autre approche, c'est de lire préalablement ce qu'a écrit Ésaïe au sujet du même peuple, Ésaïe 15 et 16. Vous lisez Ésaïe 15 et 16 plusieurs fois pour vous en imprégner tout à fait, et puis vous revenez à Jérémie, et comme ça vous saurez tout de suite exactement ce que Jérémie a repris chez Ésaïe. Et comment, il y a quelques ajouts personnels et l'usage qu'il a fait, mais vous constaterez que le texte de base pour Jérémie est très visiblement ces deux chapitres du livre d'Isaïe. Vous pouvez faire la même chose, et c'est beaucoup plus facile, puisque les textes sont beaucoup moins longs, pour le cas d'Édom, au chapitre 49, versets 7 à 14, où Jérémie reprend grosso modo les 8 premiers versets du livre d'Abdias. Vous voyez, je pourrais réaliser cette opération beaucoup plus rapidement. Et puis, pour les malheurs des Ammonites, au chapitre 49, verset 2, vous avez de toute évidence, l'inspiration d'Amos, chapitre 1, versets 13 à 15. Aucun autre prophète n'a autant cité ses devanciers que Jérémie. Et quand on trouve des textes assez proches chez Jérémie, il y a un autre prophète, et qu'on ignore les dates de l'autre prophète, on peut être pratiquement sûr que l'autre prophète aurait vécu à peu près en même temps que Jérémie, ou peut-être un peu avant lui, puisque c'est toujours Jérémie qui cite. Jérémie cite les idées, mais il va jusqu'à reprendre les métaphores de ses prédécesseurs. Alors, si je vous dis ça comme ça, vous allez me dire qu'il manque un peu d'inspiration. Mais il n'en est rien, puisque je vous ai donné assez d'exemples de la maîtrise littéraire de Jérémie lui-même. Par exemple, il reprend les métaphores de la rupture de l'alliance avec le bœuf qui secoue son joug, la vigne qui porte un fruit étranger, ou la tache indélébile qui caractérise les livres d'Ésaïe et Osée, par exemple. J'en conclus que Jérémie a pleinement conscience de faire partie d'être un maillon dans une révélation qui s'amplifie avec le temps, mais sur la base des révélations antérieures. Et si je voulais tirer une petite application pratique pour ça, je dirais que certains pensent qu'ils peuvent faire l'économie de la lecture de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament, c'est la révélation suprême, avec la venue du Seigneur, l'œuvre de rédemption à la croix, etc. Alors, pourquoi lire l'Ancien Testament quand nous avons le Nouveau? D'autant plus que l'Ancien Testament est nettement plus long. Combien de fois pain est plus long que le nouveau? Trois fois. Donc l'Ancien Testament représente pratiquement les trois quarts de la Bible. Alors vous avez beaucoup moins de matière à travailler si vous vous contentez du nouveau. Mais vous vous condamnez à ne pas comprendre pleinement le nouveau sans l'ancien, pour voir comment on est arrivé là et quel est le sens de l'action de Dieu qui nous mène vers cette position-là. Puisqu'il ne faut pas oublier que le christianisme n'est pas une pensée abstraite, mais c'est le fruit de l'action de Dieu dans l'histoire. Donc nous devons connaître cette histoire, que l'histoire nous attire ou non comme discipline. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas en faire abstraction. Alors, troisième point concerne pour Jérémie théologien, et qui est sa façon de procéder, c'est l'analyse de la situation de son époque. Jérémie est témoin des conséquences de l'idolâtrie de Juda, de cette idolâtrie qui s'était développée au fil d'un certain nombre de règnes de successeurs de David et qui a atteint son apogée sous Ahaz et puis Manassé. Donc Jérémie voit à devant les yeux cette idolâtrie qui a envahi le pays à partir de la fin du règne de Salomon, avec une situation qui s'était aggravé pratiquement de règne en règne, malgré les sursauts de rois tels que Asa, Josaphat, Ézéchias et finalement Josias. Et Jérémie savait qu'après Josias, il ne pouvait plus y avoir de sursis. C'était le dernier espoir pour son peuple. Jérémie, de ce fait, attire l'attention sur cette idolâtrie omniprésente au chapitre 10, versets 1 à 16. Nous avons une satire sur l'idolâtrie. Ah, il y a une question très, très, très intéressante ici. Comme Ésaïe, Jérémie bocade l'idolâtrie. Voilà, il y a quelqu'un qui va acheter une planche de bois. Il a froid. Bon, il en prend la moitié pour faire du feu. Et puis, il lui reste la moitié. Ben, qu'est-ce que je vais en faire? Oh, ben, je vais fabriquer une idole. Je vais faire un dieu. Et ça devient absolument absurde. Et puis, est-ce qu'on peut rire de l'idolâtrie ou est-ce qu'on doit reculer avec effroi? C'est une chose affreuse. Mais il y a les deux choses en même temps, finalement. C'est une chose affreuse. C'est à cause de l'idolâtrie que Dieu juge ce royaume de Juda. N'empêche que l'idolâtrie est absurde. On fabrique des dieux ridicules. Je pourrais enchaîner pour ce qui concerne certains thèmes sensibles aujourd'hui, comme l'occultisme. Est-ce que c'est tout simplement le néant ou est-ce que c'est une force considérable? Il y a deux approches possibles, comme pour l'idolâtrie de la période qui nous concerne. Mais Jérémie sait qu'on ne peut plus, ironiser en présence de certaines manifestations de l'idolâtrie avec le sacrifice des enfants au dieu Moloch. Nous avons vu ça avec l'affaire du potier au chapitre 19. Et Jérémie a une chose vraiment à cœur à dire à ce peuple qui est attiré vers les idoles au lieu de rester fidèle à son Dieu. Ce qu'il veut dire à ce peuple-là, c'est qu'il ne se leurre pas. Les institutions théocratiques, les institutions données par Dieu, ne serviront à rien et ne peuvent pas être utilisées comme porte-bonheur. Vous savez ce que les joueurs de foot utilisent comme porte-bonheur aujourd'hui? Comment? J'ai entendu la drogue, mais pas comme porte-bonheur, non? La croix? Oui. Et quand vous voyez un joueur qui entre sur le terrain, quelle est votre réaction? Vous voyez ça? Ah, formidable, un homme pieux. Ouais. Oui, mais c'est une pure superstition. Et est-ce que Dieu va les aider à jouer mieux? Parce que, ou est-ce qu'avant d'entrer sur le terrain, ils doivent prier, peut-être dans l'équipe gagnante? Vous croyez que Dieu s'intéresse aux résultats des matchs de foot? Oui, bon, moi pas.
Yes.
Comment? Ah oui, mais il y a des choses importantes et puis il y a des passe-temps comme le foot. Hein? Oui, mais c'est ça, c'est pas une chose importante. Mais ça, c'est autre chose, ça.
Mais la vie de ces gens de football, c'est leur métier.
Oh là là, j'ai lancé quelque chose, là. Oui, j'avoue que j'ai assez réservé. Mais c'est tout quand j'ai déjà entendu citer des tas de noms. Un tel est chrétien, un tel autre, etc. Et quand on se renseigne, j'ai même entendu ça d'Agassi. Hein, vous avez entendu ça? Et vous savez quel est son christianisme à lui? Comment? Oui, mais qu'est-ce que c'est? La scientologie. Alors, il y a des gens qui disent très vite, « Ah, chrétien, moi, je demande à voir. Hein? » Ah ben, Seigneur, donnez-moi la force de frapper plus fort hein, et de détruire mon adversaire. Mais je ne vois pas ça comme un beau prière, une belle prière, non, hein? Honnêtement, hein? Ah, Dieu veut que nous démolissions les autres. Ah, bien. Alors, essayons. Je vais essayer d'éviter les provocations. Donc, nous avons vu que c'est là que Jérémie se rend au temple pour dénoncer l'usage superstitieux de ce temple. Ah, puisque le temple de Dieu est là, nous sommes à l'abri, il n'en est rien. Pour ça que Jérémie prévoit une catastrophe du même ordre que celle qui avait frappé Silo quelques siècles auparavant. Donc voilà le premier point dans son analyse de la situation, les conséquences de l'idolâtrie de Juda. Deuxième point, Jérémie, dans ce contexte-là, est toujours convaincu de l'amour indéfectible du Dieu de l'Alliance. Après le premier cours, quelqu'un est venu me trouver, parce que là, vous êtes très timide au début, n'est-ce pas? Vous n'osiez pas parler. C'est vrai que j'ai eu droit à des observations intéressantes en dehors du cours, mais pas en cours. Mais quelqu'un m'a dit que j'avais placé les oracles de Jérémie. Et réservé ça pour plus tard. Et que quand est-ce que ces oracles interviennent, c'est à l'heure la plus sombre. C'est quand ça va mal, encore une fois, suivant le principe dont je parlais tout à l'heure, c'est quand ça va mal que Jérémie offre les promesses les plus merveilleuses à ce peuple. Au chapitre 30 à 33, et ces quatre chapitres se forment apparemment un tout dans la 10e année du règne de Sédécias. Ça veut dire qu'en plein milieu du siège final de Jérusalem, alors que Jérémie est un prisonnier dans cette ville de prisonniers, de victimes en puissance. Et le théologien du 19e siècle, théologien allemand du 19e siècle, Hengstenberg, qui est cité par la Bible annotée, appelle donc ces oracles messianiques formulés à l'heure la plus sombre le chant suprême de la délivrance d'Israël. Où vous avez ce verset que tout le monde connaît, vous connaissez Jérémie 31, verset 3, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va me le citer? Voilà. Ça veut dire que c'est un beau verset, certes, mais quand vous placez ce verset dans son contexte historique, la vérité est encore plus frappante. Donc, l'amour constant de Dieu et cette conviction que l'infidélité d'Israël ne saurait annuler le plan de rédemption qui continuera à passer par Israël. On peut facilement appliquer ça à l'histoire de l'Église. J'ai le privilège d'enseigner l'histoire de l'Église, mais privilège redoutable, parce que quand on est honnête et on veut enseigner honnêtement la situation, on doit vraiment détailler échec sur échec la part des hommes, même des hommes qui avaient une bonne théologie. L'Église, on trouve des failles de tous les côtés, et malgré ça, nous sommes encore là et nous avons la conviction que le Seigneur est là et nous a donné son esprit. Quelle patience de la part de Dieu. Dieu avait besoin d'être patient, non seulement avec Israël, mais avec nous-mêmes aussi. Alors, nous passons au point numéro 4. L'avenir d'Israël. J'ai entendu là, est-ce que vous pensez que je vais vous parler du temple du millénium? Non, pas du tout. Je vais en parler cet après-midi, puisque quelqu'un a posé la question. Donc, un espoir à l'heure de la catastrophe. L'œuvre de Dieu, jusqu'à l'époque de Jérémie, avait passé par tous les descendants de Jacob, où le livre de la Genèse nous montre une sélection continuée de la part de Dieu. Nous avons entendu lors d'une prédication hier comment Dieu a choisi Jacob et pas Ésaü, n'est-ce pas? Et avant cela, c'était Isaac et pas Ismaël, et ça avait continué, il y avait toujours des choix et des rejets jusqu'aux 12 fils de Jacob. Et malgré, on pourrait dire, les origines douteuses de ces 12 fils à certains égards, Dieu avait accepté les 12 et avait voulu que son œuvre passe par les 12 fils de Jacob et tous leurs descendants. Mais à partir de ces moments fatidiques dans l'histoire du peuple, les prophètes prévoient d'abord avec Ésaïe au chapitre 6. Vous connaissez le chapitre 6 d'Ésaïe, quand le prophète apprend lors de sa vocation qu'il y aura seulement un reste purifié, un dixième et encore moins de ce peuple. Jérémie reprend ce thème-là. Dieu va continuer à agir par Israël, mais seulement par un reste au sein du peuple. Plus précisément par les exilés de 587, où Ézéchiel était à l'œuvre dans l'enseignement et dans le travail de susciter une repentance salutaire en vue d'un sursaut national. Alors Jérémie nous propose au chapitre 30 un programme d'une restauration politique d'Israël, un programme qu'il esquisse en quelques traits au chapitre 30, versets 18 à 22. Il reprendra certains éléments de cet inventaire au chapitre suivant, 31, 1 à 14, mais je me contenterai de parler de cet inventaire bref du chapitre 30. Alors, qu'est-ce que Jérémie annonce au verset 18a? Le retour des captifs. Au chapitre 18b, la reconstruction du pays. Au chapitre 19, verset 19, l'essor démographique. Au verset 20, la protection divine pour le peuple restauré. Au verset 21, le choix de chefs civils et religieux autochtones. Donc les Israélites auront un semblant d'autonomie politique. Et au verset 22, nous avons la reprise de la formule classique « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Donc la reprise du cours de l'Alliance. Israël ou une partie d'Israël restera le peuple de Dieu. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de... peut-être assez rapidement. Jérémie en parle très brièvement pour une raison très simple. C'est qu'il n'avait qu'à mentionner un thème et ses lecteurs comprendraient tout de suite qu'il fait référence à des textes antérieurs, plus détaillés. Pour le retour des captifs, quel prophète en avait parlé le plus longuement ? Ésaïe, surtout à partir du chapitre 40. Donc, inutile de revenir dessus. Ézéchiel en parle également au chapitre 35 à 38, 39. Jusqu'au chapitre 37, pardon. Pour la reconstruction, vous avez le prophète Agé. Pour l'essor démographique, vous avez qui? Ah, ça, c'est plus difficile. Quel prophète a évoqué ce thème-là avec le plus de détails? Zacharie. C'est au chapitre 2 et puis au chapitre 8. Donc, il est beaucoup question de cet essor. Et Pour ce qui concerne les chefs civils autochtones, vous avez Agé 2, Zacharie 3 à 4, ainsi que le chapitre 6, 9 à 15. Donc, inutile de détailler ce qui avait été déjà dit ou ce qui allait être dit par d'autres prophètes. Jérémie se contente de résumer le tout. Mais il doit formuler le schéma général pour s'attarder, en fin de compte, sur un thème qui ne lui sera pas entièrement réservé, mais où il aura le privilège, la part de Dieu, d'être le prophète le plus clair et le plus encourageant. Mais nous allons voir ça un tout petit peu plus loin. Ce sera la nouvelle alliance. Mais en attendant, Jérémie parle également, là aussi, un enseignement concernant le messianisme davidique. Alors, qu'est-ce que le messianisme davidique ? C'est cette idée que le Messie sera un roi issu de David, donc fils de David. Quand la foule a accueilli Jésus pour l'entrée à Jérusalem le jour des rameaux, et que quand on a dit fils de David, ça veut dire qu'on attendait, qu'il vienne là pour régner, d'où la peur des autorités. Et dans ce sens-là, Jérémie évoque explicitement un nouveau David au chapitre 30, verset 9. Et il reprend un terme employé par les prophètes depuis Isaïe pour décrire ce personnage comme un germe. Donc le germe juste au chapitre 23, verset 5. Et en tant que germe juste, il aura accès à la présence de Dieu comme tout souverain sacrificateur, grand prêtre. Et la Bible annotée parle, à juste titre, me semble-t-il, du cumul de l'autorité politique et religieuse pour le Messie, prévu par le psaume 2. Et le psaume, quel est le grand psaume qui nous parle d'un Messie à la fois roi et sacrificateur?
110.
Voilà, très bien. 110. Mais derrière ce langage classique, Jérémie privilégie une réalité spirituelle qui dépasse infiniment le caractère visible des institutions théocratiques qui vont disparaître et dans certains cas pour ne plus jamais réapparaître. Qu'est-ce qui va disparaître définitivement en 587? Le temple? Ah non, le temple sera reconstruit. Comment? La royauté, ça c'est très juste, la royauté. Je suis entièrement d'accord. Et encore autre chose. Il y a la période des Asmoniens. Oui. Quelque chose que je n'ai pas mentionné jusqu'à présent. Au chapitre 3, verset 16 de Jérémie. Non? L'Arche de l'Alliance. Jérémie a dit, on n'en parlera plus. Mais là, on serait tenté de dire que Jérémie n'a pas tout prévu, n'est-ce pas? Il n'a pas prévu qu'on en parlera, mais on en parlerait de nouveau au XXe siècle. Comment? Oui. Et qu'on a non seulement on allait en parler, mais on allait retrouver l'arche, n'est-ce pas? Attention à vos réactions, parce que là, je vois quelles sont vos activités, quels sont vos intérêts. Et avec quelle fréquence vous allez au cinéma. Comment? Ah bon, oh là là, il ne veut pas avouer qu'il va encore au cinéma aujourd'hui. J'aime bien que les gens se trahissent. Mais je ne sais pas si je l'ai fait cette semaine, mais dans une étude biblique, il y a quelqu'un qui intervient, me dit, mais si, je dis, mais avec des si, on met Lutèce en enfer. Et les gens qui ont rigolé, ont confessé quoi? Qu'ils avaient des lectures non bibliques. Ben voilà, vous avez compris quoi, n'est-ce pas? Bon. Voilà. On ne peut pas se trahir plus directement que ça.
Vous avez Ecclésiaste 1, verset 1, vous avez Romains 7
en Astérix. Oh là là, un spécialiste la question. Donc, soyons sérieux, Jérémie, dans ce texte vraiment essentiel, au chapitre 31, versets 31 à 34, Jérémie n'hésite pas à relativiser la valeur de certains traits essentiels de l'alliance du Sinaï, déjà avec le système sacrificiel. Mais avec la circoncision, Jérémie reprend ce vocabulaire deutéronomiste, entre guillemets, de la circoncision du cœur comme étant plus importante que la circoncision de la chair. Comme nous avons déjà vu qu'au chapitre 3, verset 16, il affirme qu'on ne parlera plus de l'arche, donc des tables de la loi. Chapitre 31, verset 33, on ne parlera plus des tables de la loi parce que la loi sera écrite dans le cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la loi sera écrite dans le cœur au lieu d'être sur des tables? Comment? Oui, et ça veut dire que comme j'ai entendu, un chrétien dit un jour, pourquoi citer la Bible? On n'a pas besoin de la Bible, nous avons l'Esprit. Et dans certains milieux, l'idée est extrêmement courante. Hein? Mais est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas besoin de l'Écriture? Non. Mais quand nous lisons l'Écriture, ça doit parler à notre cœur pour que ça fasse partie de notre personne, de notre intérieur le plus intime, au lieu de rester quelque chose d'extérieur. C'est comme pour les Juifs ont reçu l'ordre de respecter le sabbat. Mais par moments, il fallait les interventions musclées de Néhémie pour que le sabbat soit imposé. Pour ce qui nous concerne, est-ce qu'il faut imposer le culte dominical? Ou est-ce que ça doit être un mouvement spontané, naturel? Mais c'est plutôt ça. Vous avez déjà cette vision dans les psaumes. Je suis dans la joie quand on me dit. Voilà. C'est quel psaume? Parfait. Donc, Jérémie est convaincu que oui. dans les Romains, est-ce qu'il y a un texte dans les Romains? Parce que là, je dois confesser que j'ai quelque peu délaissé les Romains depuis un moment. Bien. Ça veut pas dire que je n'ai pas une certaine connaissance du livre, quand même. Je ne vois pas de vice, mais c'est fort possible. Bien. Donc, Dieu prépare une nouvelle alliance où les valeurs seront intériorisées, où on ne pourra plus mesurer la fidélité d'une personne d'après son aspect extérieur. Et vous voyez, quand vous voyez un juif aujourd'hui, vous dites que c'est un juif? Oui, à cause de son chapeau, de son costume, etc. Oui. Et puis voilà, il porte... Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Hein. Et quand vous voyez un chrétien évangélique, vous vous dites, ah, ça c'est un chrétien évangélique. Comment? Mais en principe, ce n'est pas possible. J'ai vu un jour un étudiant qui se promenait, je crois que c'était un Américain, qui avait, son ami, il avait des versets bibliques et vraiment des slogans, convertissez-vous, partout sur lui, il se promenait partout comme ça. Vous ne pouvez pas se tromper. Mais je dois dire que j'admire le courage de ce jeune-là. Bah, pour le faire, bon, déjà pour porter l'uniforme de l'armée du salut, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas vraiment convaincu que ça correspond à la pensée de Dieu. Et il vaut mieux faire ça que de mettre son drapeau dans sa poche, c'est sûr. Hein, nous devons briller par nos bonnes œuvres, par notre personne, par... nos paroles, oui.
Vous savez que de nos jours, c'est que apporter des versets, que ce soit la communication, c'est la publicité, c'est tout aussi, tout marche par la rue aujourd'hui.
Mais c'est une raison de plus hein, pour ne pas imiter cette tendance-là. Oui. Non, mais je l'admire et je pense que ce jeune a dû être béni par le Seigneur, mais ça ne veut pas dire que c'est l'idéal de Dieu.
On
ne
sait pas.
Oui. Mais c'est plutôt notre conduite doit être telle que les autres nous interrogent.
Hein. Ça révèle quelque chose de propre à
nos siècles
par rapport à la communication aussi.
Ah oui, c'est que on peut trouver. C'est que moi, je ne le condamne pas. Mais je ne sais pas, c'est que si c'était l'idéal, nous devrions tous faire pareil. Bon, bien. Donc, et quand je lis le sermon sur la montagne, je vois cette différence de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. L'essentiel se passe désormais dans le cœur. Mais que là, pour le cas de convoitise, qui est aussi grave que l'acte même pour l'adultère, etc. Puisque l'Esprit de Dieu veut habiter dans notre cœur, c'est le cœur qui doit être purifié. Et c'est ce que Jérémie a prédit, cette transformation de l'homme de l'intérieur, cette transformation de la volonté de l'homme. Donc, et puisque l'homme est transformé, ce n'est pas une alliance passagère, comme pour l'alliance du Sinaï, mais une alliance éternelle. Et Jérémie utilise cette tournure-là au chapitre 32, verset 40. Une alliance éternelle qui ne sera jamais remise en question et qui ne sera jamais dépassée. Et on comprend pourquoi, si cette alliance est fondée sur l'œuvre d'expiation réalisée par le Seigneur, on ne peut pas aller plus loin que ça. On pourrait dire qu'à la croix, Dieu nous a montré la limite de de ce qu'il était capable de faire, mais une limite qui avait une valeur infinie, hein, comme il convient à Dieu. Alors, si je devais vous proposer une petite conclusion à la fin de notre cours, je dirais que Jérémie est un prophète qui, avec Isaïe, reste le plus lié à un contexte historique. Donc, vous ne pouvez pas étudier, pour étudier ni l'un ni l'autre, sans connaissance aucune de l'histoire de l'époque. Mais ce qui est tout à fait paradoxal dans le cas de Jérémie, c'est que Jérémie, par des expériences douloureuses, toujours liées à l'histoire, parvient à sortir de l'histoire pour accéder à un niveau supérieur, spirituel, éternel, avec cette nouvelle alliance. Alors, c'est l'heure, mais est-ce que vous avez de dernières questions à poser avant qu'on se sépare? Bon, ouais. Je ne sais pas si je pourrais répéter textuellement, mais... Je dis que Jérémie est intimement lié à l'histoire, mais par les souffrances engendrées dans sa vie personnelle, par l'histoire, par tous les conflits qu'il avait à vivre, il accède à un niveau supérieur, il sort de la simple histoire pour voir quelque chose de permanent, de supérieur, de spirituel, donc qui dépasse les expériences humaines. Bien. Vous n'avez plus de... Ah, oui.
J'ai une question, mais ce n'est pas vraiment sur Jérémie, c'est sur les petits prophètes.
Oui.
J'aurais aimé savoir à quelle tranche de l'histoire vous voulez rattacher. Personnellement, je suis un peu paumée avec ça.
Oui, bah. Mais je vous conseille de prendre un dictionnaire biblique pour chacun, mais on peut dire on n'est pas absolument sûr qui est le premier. Il y en a qui pensent que c'est Joël, déjà au 8e, peut-être même le 9e siècle, mais on peut dire que ce qui est sûr, c'est que ces premiers prophètes qui nous ont laissé un livre canonique ont vécu au moins au 8e siècle. Et le dernier, Malachie, est de la... c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est... oui, donc ça veut dire que c'est une œuvre qui s'échelonne sur quelques siècles.
D'accord. Et l'ordre de la Bible,
comment?
C'est l'ordre chronologique?
Pas tout à fait, mais moi, parce que là, parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la datation de tel livre, mais il me semble personnellement que l'ordre que nous avons actuellement, d'après le texte masorétique, correspond à peu près à l'ordre chronologique, il me semble personnellement. Mais je vous signale que tout le monde ne partagera pas cette façon de voir. Oui? Pardon, c'est... Comment est-ce qu'on dégage l'essence?
Le message.
Oui, mais quelle est la question? Comment est-ce qu'on dégage l'essentiel du message? C'est ça le sens de votre question? Oui? Mais il y a plusieurs approches. Il y a l'approche empirique, c'est qu'on lit, on relit le livre, et puis on voit puis finalement ce qui frappe. On peut situer le livre par rapport à ce qui précède et ce qui suit dans la Bible pour voir quelle est la contribution spécifique de ce livre-là. Ou il y a l'approche littéraire, où en pratiquant une analyse chiastique en particulier, où on peut essayer de retrouver l'essentiel au centre. Et je voudrais tout juste vous donner un exemple de ça dans le livre d'Ésaïe. Si vous prenez les chapitres 40 à 66, vous avez une excellente analyse de ces chapitres-là dans l'ouvrage d'Archer, « Introduction à l'Ancien Testament », où il montre qu'il y a trois volets, mais lui n'avait pas de chiasme présent à l'esprit. C'est pour ça que son analyse est intéressante. Et on voit il y a à la fois une progression, mais avec une concentration sur le volet central. Et qu'est-ce qui se trouve dans le volet central, au milieu du volet central de ces chapitres-là? C'est chapitre 53. Mais on aurait déjà pensé que c'était ça. Mais l'analyse littéraire tend à confirmer ce qu'on pressent sans son travail d'expert, si j'ose dire. Bien, alors il faudrait que... Ah oui? Oui. Oui, oui. Oui, oui, bah, c'est le cas de beaucoup de gens. Hein. Mais c'est bon, je n'ai absolument pas de temps. Je couvre cette période-là dans un cours à deux gens. C'est le moment où on a rédigé des livres ajoutés dans les Bibles catholiques avec les écrits intertestamentaires, les livres, ce que nous appelons les livres apocryphes, que les catholiques appellent les livres deutérocanoniques. Bon, on peut suivre un peu avec les livres des Maccabées, on peut suivre l'évolution historique. Mais ce qui est intéressant de cette période-là, c'est que si Dieu s'est tu, les Israélites ne se sont pas tus, eux. Ils se sont livrés à beaucoup de spéculations, et c'est pendant cette période-là que le genre apocalyptique prend son essor. Et ce n'est pas sans importance, puisque nous trouvons des traces de cet enseignement apocalyptique chez Jésus. Ou bien il épouse ses idées, ou bien il les modifie, ou bien il les change complètement. C'est que Jésus se situe à la fois par rapport aux écritures que nous avons et par rapport aux spéculations juives de la période intertestamentaire. Mais je n'ai pas le temps de vous dire plus que ça. Mais s'il y a une chose, oui. On peut dire que ça permet au livre de Jérémie de se terminer de la même manière que les livres des rois. C'est que, et tout le monde est d'accord sur une chose, ce n'est pas Jérémie qui a écrit le dernier chapitre. Ça a été ajouté à son livre, mais par quelqu'un d'autre d'inspiré qui a pensé que c'était la conclusion qu'il fallait. Hein. Oui, mais oui, c'est intéressant, c'est que les livres historiques, en tout cas, même quand tout part à volo, il y a toujours une note d'espoir à la fin. Ça, c'est vrai. Bien. Alors, pour ceux qui veulent valider le cours, qui viennent me trouver maintenant, s'il vous plaît.